Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du samedi consacré ce matin à la question des femmes discriminées. Après avoir été libérées, les femmes seraient-elles en effet enclavées, enfermées, mises à l'écart? Dans une étude présentée la semaine dernière, l'INSEE Lorraine évoque en effet la position des femmes dans notre région, plus pauvres que dans les autres régions de France et pourtant plus laborieuses. Des femmes mises en arrière-plan, encore soumises aux violences conjugales et à la discrimination. Une situation particulièrement criante dans les Vosges. Une enquête signée Jean-Christophe Givor, où il sera beaucoup question ce matin des violences faites aux femmes, préoccupations gouvernementales mises en avant cette année.
Tout est parti d'une étude publiée par l'INSEE Lorraine il y a quelques jours. Jean-Pierre François, directeur régional de l'INSEE.
Les femmes lorraines sont plus nombreuses que dans la moyenne nationale. De ce concept de pauvreté qui est associé au ménage, hein, puisque c'est le ménage qui est qualifié par la pauvreté, non pas simplement l'individu, nous avons voulu explorer quelle était la composante liée au salaire. Et là, nous avons étudié ce qui se passait du point de vue du genre, c'est-à-dire dans la différence homme-femme sur les salaires, bas salaires en particulier. Et là, les conclusions que nous obtenons, c'est que la Lorraine, là encore, est touchée par des handicaps, que ces handicaps sont territoriaux, en particulier liés à la structure de certains territoires, et en particulier ceux qui sont les plus industriels. Dans les Vosges, c'est notamment les secteurs de l'Est vosgien, du Massif, qui, comme vous le savez, sont beaucoup plus industriels, de même que, par exemple, les secteurs de la frontière pour le nord de la Lorraine, qui sont les plus touchés par les bas salaires. Alors, il y a peut-être une discrimination réelle et objective avec des taux de salaire inférieurs des femmes par rapport aux hommes. Mais il se surajoute à ces considérations des effets de type structurel. Dans quelle industrie vous travaillez, sur quel secteur vous travaillez, quel type d'emploi vous exercez, et en particulier le recours ou non au temps partiel, puisque c'est principalement les femmes dans une proportion massive qui sont touchées ou qui ont recours, on ne sait plus quel terme adopter, par le temps partiel, et une grande partie de ces femmes tombent dans les bas salaires du fait de cette quotité de travail insuffisante. Les femmes sont moins mobiles, je parle dans leur mobilité quotidienne, pendulaire, qui consiste à se déplacer de son domicile à son lieu de travail, ont des mobilités de beaucoup plus faible ampleur que les hommes, quelques kilomètres seulement, et donc de ce fait, n'accèdent pas à des postes qui pourraient être mieux rémunérés, comme le font les hommes qui, eux, ont des mobilités quotidiennes d'ampleur double, voire triple, pour accéder à des salaires, notamment dans les centres-villes, qui sont plus rémunérateurs.
Et parmi les invités à cette présentation, une femme particulièrement attentive, Nouria Yaibodjo.
Alors je suis donc déléguée régionale donc aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes ou les femmes, ou à l'égalité tout simplement. Alors ma mission, c'est en représentation donc d'une politique publique dans ce domaine, donc en région Lorraine, près du préfet de région. Alors cette politique consiste, si vous voulez, donc à être en observation et à être en veille sur toutes les orientations publiques qui ont été définies par le gouvernement donc en matière donc d'égalité homme-femme, ce que la réglementation donc rappelle en matière donc de rémunération, d'écart donc de salaire, et ensuite donc d'égalité donc en droit concernant donc les femmes dans tous les domaines, notamment de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est une des priorités, une cause nationale. Bon.
Ça y est, c'est l'heure du thé.
Super.
Tiens, chérie.
Regarde ce que t'as fait.
Quoi?
T'en as renversé.
Je suis désolée, il y en a qu'un petit peu à côté.
Tu dis toujours ça. Désolée.
Qu'est-ce que je peux faire?
Tu peux rien faire, car tu sais rien faire de bien.
Ferme-la.
Tiens, prends ça.
Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents, y compris les violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Mettez fin au cycle de la violence. Appelez le 3919.
Notre travail donc consiste à fédérer, à être force de proposition et à dynamiser toutes les actions, toutes les prises de conscience et toutes les décisions, que ce soit dans le domaine donc institutionnel, auprès des collectivités territoriales, auprès donc des entreprises, à fédérer donc toutes les initiatives qui vont permettre, je veux dire, de promouvoir toute cette politique donc d'égalité, sachant aussi que cette politique donc d'égalité est contrainte donc à des objectifs, hein, et qui sont des objectifs donc européens. Gros travail de communication, gros travail aussi donc de promotion, hein, et surtout donc de tissage d'un partenariat, monde économique, le monde de la collectivité et le monde donc institutionnel, plus les choses avanceront. Ce n'est pas une réflexion qui est la propriété donc des femmes et qui appartient aux femmes, bien au contraire, c'est une réflexion qui est totalement partagée donc avec des hommes.
Justement, votre travail apparemment prend un essor particulièrement en Lorraine, puisque l'étude de l'INSEE pour laquelle nous sommes réunis présente justement une disparité assez importante, une pauvreté des femmes, on va même dire une position de faiblesse sociale peut-être.
Tout à fait. Alors, certainement donc position donc de faiblesse donc sociale sous un regard donc d'avenir en termes d'impact sur les retraites, etc. Parce que quand on a un bas salaire aujourd'hui et quand le bas salaire est tellement donc aigu à la part, les proportions de bas salaire sont tellement aiguës, vous imaginez bien que l'avenir peut être préoccupant. Donc voilà, avec cette disparité donc sociale. Ensuite, effectivement, comme je le disais, donc la région Lorraine est une région donc particulière, riche de son histoire donc industrielle, riche de ses mutations, mais riche aussi, je dirais, de la présence donc des femmes, hein, qui, pour cette région, nous le savons, a été donc une région où le taux déjà d'activité donc des femmes était le plus faible de France. Les Lorraines ne travaillaient pas. C'est culturel, de tradition. On a parlé aussi donc des origines ethniques ou des origines donc sociologiques qui ont expliqué donc ceci. Alors je crois aussi que l'étude est le reflet, je dirais, de toute cette histoire. C'est bien une continuité. On ne généralise pas notre analyse dans le domaine de la pauvreté donc au féminin ou de la précarité professionnelle et féminine. Elle n'est pas généralisée. Il y a d'autres poches donc d'observation, donc d'autres réponses certainement donc à apporter, ou du moins si c'est pas des réponses uniquement donc à apporter en temps réel. Je crois que le territoire français va s'enrichir de cette étude parce que voir les choses peut-être certainement donc différemment. Hein.
Les violences faites aux femmes qui sembleraient être en augmentation.
Oui, alors c'est vrai que les violences sont en augmentation, hein, sur l'observé, sont en augmentation parce qu'on en parle aussi énormément. Je veux dire, on en parle et puis il y a une réalité. Alors les questions, les remarques que je vais faire, ce sont des questions que je vais poser. Il faut être modeste aussi vis-à-vis de ça, il faut être prudent. Est-ce que les effets donc de précarité, hein, la crise économique ont un impact sur l'équilibre des relations hommes-femmes? Certainement. Est-ce que aussi, je dirais donc la fragilité des constructions donc familiales, hein, a un impact sur la relation homme-femme, hein. Je dirais aussi, est-ce que nous n'héritons pas aujourd'hui de négligence en matière de l'image de la femme qui est véhiculée, je veux dire, de manière culturelle, dans les médias, par l'éducation, et des images donc négatives des femmes, qui fait que on conforte des relations donc de violence.
Success. Ooh, 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 oo
le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
La violence est toujours un rapport de force. Hein. Et le rapport de force, il naît toujours par le fait que il y a, je regarde l'autre de manière dévalorisée. On ne naît pas violent, on le devient. On le devient ou c'est éducatif. La violence faite aux femmes, c'est un crime. Et puis une société ne peut pas être fière de ça. Une société qui se respecte, c'est une société qui va d'abord combattre toutes les formes donc, de violence. Voilà.
Agissons. Appelez le 3919.
Je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, départementale de Meurthe-et-Moselle.
Zara Anser Braconnier.
On a une convention signée avec 8 ministères, dont l'éducation nationale et notre ministère. On intervient dans les écoles sur 2 thématiques, sur les choix d'orientation et sur les comportements violents. Ce qu'on observe du terrain, en tout cas moi sur le département, et ce qui m'est remonté des professionnels, des chefs d'établissement, des professeurs, des AS, des assistantes sociales, c'est un, sur les violences, les jeunes filles sont de plus en plus, elles ont un seuil de tolérance à la violence qui est de plus en plus élevé. C'est-à-dire, les jeunes hommes se comportent très mal avec elles et elles considèrent que c'est pas très grave, qu'il y a des insultes que je ne répéterai pas ici, qui sont assez graves et qu'elles considèrent comme étant un jeu.
Elles ont la normalité.
Tout à fait, c'est rentré. Et le comportement violent est entré dans leur rapport fille-garçon. Alors ça, c'est la première chose, la première observation qui est inquiétante et qui nous interroge, nous, en tant que professionnels. Que va-t-on mettre sur le terrain pour justement expliquer aux jeunes hommes et aux jeunes filles que les comportements ne sont pas, s'inscrivent pas forcément dans la violence et dans la discrimination. La deuxième mission que l'on a au niveau de l'éducation nationale, c'est au niveau des choix professionnels. Ce qu'on observe, c'est que les jeunes filles sont meilleures en classe. Elles obtiennent de meilleurs résultats. Alors, toutes les observations nationales ou locales le démontrent. Elles ont des moyennes beaucoup plus élevées et on ne les retrouve pas dans les grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs. Et on a essayé de comprendre pourquoi cette autocensure. Il y a une étude qui a été commandée par l'Éducation nationale et le ministère de la Solidarité et du Travail. À quoi rêvent les jeunes filles ? Et l'une des premières préoccupations des jeunes filles entre 14 et 18 ans, c'est comment va-t-on concilier la vie professionnelle et la vie familiale. C'est dire à quel point s'est inscrit culturellement cette discrimination existante sur le choix professionnel des femmes. C'est-à-dire les femmes, si elles sont moins bien payées, ça on le sait, travail égal, rémunération inférieure, pourquoi on les retrouve pas à des postes décisionnels, pourquoi on les retrouve pas à des postes dans les conseils d'administration des grandes entreprises, vient s'ajouter cette autocensure où elles se disent de toute façon, vaut mieux que je fasse le choix d'un métier, même s'il correspond pas à ce que je veux et à mes compétences et à mon niveau d'études, vaut mieux faire le choix, c'est ce qu'on se disait ce matin, d'un bas salaire mais qui me permettra de concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Cette structuration, je dirais, de cerveau, elle existe très tôt. Alors évidemment, les jeunes, elles ne fonctionnent que par l'exemple. Et donc d'avoir vu sans doute leur maman et leur papa, voilà le papa qui fait un choix professionnel en correspondance avec ses convictions, ses ambitions, la maman a dû s'arrêter de travailler, rentrer dans le monde du travail un peu plus tard parce qu'elle a eu des enfants, elle a fait aussi le choix des enfants. Donc il faut qu'on travaille sur ces facteurs structurels et avant de penser à créer des crèches ou des crèches avec des horaires atypiques, je crois qu'il faut déjà travailler au niveau de l'éducation nationale, au niveau des choix d'orientation professionnelle.
Ces rêves de jeunes filles qui finalement sont un peu conventionnels, il me semble qu'ils ressemblent de moins en moins à ceux, alors plutôt des grands-parents là du coup, enfin en tout cas de la génération de 68, oui. La société régresserait-elle ?
Alors, parler de régression peut-être. Alors, Elisabeth Badinter parle de régression, sans doute. Mais bon, moi, j'essaie de relativiser. Je crois que, on le sait, en période de crise, alors la crise à bon dos, c'est vrai, mais je crois que c'est aussi un élément. On ne peut pas faire l'économie de cette explication-là. En période de crise, il y a de la part de l'individu, de tout individu, une reconcentration sur ce qui lui semble être sécurisant, sur sa communauté, sur sa famille, sur l'État. Et on est en demande de normes en période de crise. Bon, c'est un phénomène qui est bien connu, qui est très bien expliqué, que ce soit par les psychothérapeutes ou les sociologues. Donc je pense qu'en cette période de crise, les jeunes filles se disent peut-être que le lieu le plus sécurisant, c'est la famille, la construction d'une famille. Et elles n'ont comme ambition, alors ça peut paraître paradoxal, hein, elles n'ont comme ambition que de s'inscrire dans le cadre d'une famille. Il n'y a pas de jugement de valeur hein, sur ce que je suis en train de vous dire. Simplement, à l'époque où nos grand-mères, les femmes de 68, essayaient de s'émanciper de tous les cadres, quels qu'ils soient, nos jeunes filles essaient de se réinscrire dans n'importe quel cadre, je dirais, pour avoir une espèce de sécurité. Moi, je ne parle pas de régression, je pense que on est dans un moment de crispation où on se retourne vers les choses qui sont les valeurs sûres, qui restent encore en France, la famille.
Il y a Zabek, le commissaire à l'égalité des chances que j'ai rencontré il y a quelques temps, parlait de micro-ghettoisation de la société dans le sens des groupes qui se forment, qui se renferment et qui communiquent de moins en moins entre eux, ce qui explique en partie les violences d'un groupe vers l'autre, d'un sexe vers l'autre.
Cette micro-ghettoisation, c'est justement le retour de l'individu sur un groupe, dans une communauté, dans une structure qui l'identifie comme étant sa structure, son groupe d'appartenance, sa communauté d'appartenance. Alors ça peut être les communautés religieuses, ethniques, mais c'est aussi une communauté filles-garçons. Moi, dans les écoles, dans les quartiers, les associations, les professionnels me font remonter du terrain l'idée que dans les cours de récré, il y a le groupe des garçons et le groupe des filles. Dans les associations, c'est pratiquement déserté par les filles. Pratiquement. Dans les quartiers, les filles et les garçons ne se mélangent pas. Donc, dans tous les lieux de socialisation, à aucun moment, on observe une mixité, un rapprochement des groupes filles-garçons. Ils ne se parlent plus, ils ne communiquent plus, et quand ils communiquent, c'est dans le conflit. You gotta be fortunate. You gotta be lucky now.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Regarde ce que t'as fait.
Quoi ?
T'en as renversé ?
Je suis désolée, il y en a qu'un petit peu à côté.
Tu dis toujours ça, désolée.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Tu peux rien faire car tu sais rien faire de bien.
Alors que le gouvernement s'attache à faire reculer les violences faites aux femmes en lui consacrant cette année, le poste de la déléguée des droits de la femme dans les Vosges est toujours vacant.
En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Mettez fin au cycle de la violence. Appelez le 3919.
Une seule structure dans les Vosges s'occupe donc du droit des femmes, le CEDIF. présidé par Claudine Renard, rencontre.
Qu'est-ce que c'est que le CEDIF ?
C'est un centre d'information sur les droits des femmes et des familles qui accueille toute personne, femme ou famille, qui en quête d'informations juridiques ou par rapport à l'emploi ou par rapport à l'aide aux victimes. Des centres d'information comme le nôtre ont été créés dans les années 81-82 et ils répondaient à une préconisation de Marie Judelin, qui était déléguée régionale à la condition féminine, qui était chargée du droit des femmes auprès de la préfecture. À cette époque-là, on était là pour répondre effectivement à tout ce mouvement féministe qui était en route depuis quelques années, qui commençait à se structurer. Donc à l'époque, c'était des centres qui étaient tournés essentiellement vers les femmes. C'était déjà beaucoup par rapport au divorce, par rapport aux violences et par rapport à tous les droits qui n'étaient encore pas acquis aussi fortement envers les femmes, quoi.
80, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 30 ans, les années où la France s'est tournée très fortement vers le social, vers une France d'égalité. Aujourd'hui, où en est-on dans l'égalité des sexes ?
À l'égalité des sexes, c'est assez controversé, hein. Vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont vous dire qu'il n'y a toujours pas plus d'égalité. Et on en voit la preuve au niveau du travail. Le travail des femmes, qui est beaucoup du travail de pauvres, hein. Il y a eu une enquête de l'INSEE la semaine dernière qui dit qu'effectivement, les travailleurs pauvres, 60% des femmes en font partie sur la Lorraine. Donc l'égalité dans ce sens-là, non, elle n'existe pas forcément. Par contre, dans certains autres domaines, nous les femmes, on a quand même aussi obtenu le droit de cité. On est entendu, on est comprise, on fait partie de certaines instances dirigeantes, peut-être pas partout encore, bien sûr, mais je pense qu'on peut prendre notre place beaucoup plus facilement que dans les années 80, bien sûr.
Alors, le combat des féministes a-t-il été suivi d'un véritable effet ?
À mon avis, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Hein. Le combat des féministes a été assez fort. Il a obtenu un certain nombre d'avancées pour la femme. Par contre, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Hein. C'est vite fait de repartir en arrière. Et moi, je crains beaucoup pour nos filles et nos petites filles, de façon assez prégnante, parce que on s'aperçoit que il y a toujours cette caractéristique de la petite fille et de la femme qui... Moi, je prends toujours l'exemple des cadeaux de Noël, par exemple. Vous allez dans un magasin de jouets, le cadeau de Noël, immanquablement, si vous avez une petite fille, il faut acheter du rose, des poupées Barbie, des aspirateurs, des fers à repasser, des machines à laver qui lavent vraiment, enfin, etc. Alors que si vous avez un petit garçon, un petit-fils, il faut aller vers les objets typiquement masculins. Les enfants, les garçons sont les sauveurs du monde. Hein, c'est Batman, c'est Spider-Man, c'est tous ces gens-là, c'est les pompiers, c'est les médecins. Et je pense que ça fait partie aussi de même nous, hein, dans notre inconscient, souvent, on est dans cette façon de penser. Donc il faut qu'on gendarme sans arrêt, pour ne pas tomber dans ce travers et faire en sorte que... La femme n'est pas toujours le personnage le plus faible, au contraire, on a des choses à montrer et on a des choses à démontrer, et je crois qu'on est un certain nombre à le faire, quoi.
Sur le fond, c'est un peu la philosophie d'une association comme le CEDIF ?
Je pense, oui. Et puis la philosophie d'une association comme le CEDIF, c'est de dire, nous on est en capacité d'apporter de l'aide, hein, et de parler pour les gens qui n'ont pas cette capacité. Quand on voit le nombre d'appels téléphoniques sur une année, nous avons eu 4000 appels téléphoniques, nous avons eu 200 visites physiques pour obtenir un rendez-vous. Ça représente quand même, sur 220 journées de travail dans une année, près de 20 coups de téléphone ou visites dans la journée. C'est donc que nous correspondons à un besoin. Et qu'il faut absolument qu'on reste, qu'on soit là, et qu'on puisse, outre les permanences, être présent sur le terrain et pouvoir répondre aux besoins. Et justement, dans mon rapport moral d'hier soir, puisque nous avons eu notre assemblée générale, j'exprimais quand même la crainte des associations comme les nôtres, hein, où on a essentiellement comme charge du personnel. J'ai 8 salariés, dont certaines à temps plein. Il faut absolument qu'on puisse continuer à obtenir nos subventions pour les actions que nous faisons. Sinon, nous avons déjà, par exemple, cette année, en début 2010, dû réduire un temps de travail de 40 heures. Pour une jeune femme, ça a été insupportable. Elle est partie parce qu'elle ne pouvait pas accepter une diminution de temps de travail comme celle-là. Donc, voilà, on est toujours sur la corde à essayer de calculer si on vivra bien, si on peut continuer longtemps, si on peut continuer à rendre les services pour lesquels on milite. Et ça devient à certains moments insupportable.
C'est même un paradoxe, cette affaire de réduction d'un temps de travail, justement au moment où l'INSEE publie le rapport posant la précarité de l'emploi au féminin.
Je pense qu'on est dans une situation un peu, pas catastrophique, mais on est à limite. Au niveau de l'emploi féminin dans les Vosges, à part certains bassins d'emploi comme Épinal, où l'offre d'emploi est quand même assez... on va dire à peu près bonne, encore à peu près. Il y a d'autres endroits où, hélas, le travail féminin ne se réduit qu'à quelques heures de ménage par semaine, quelques heures d'accompagnement de personnes âgées, etc. Et il me semble que ce sont des emplois qui sont forcément à temps partiel et forcément qui entraînent une certaine paupérisation.
Et si l'emploi est une réelle préoccupation, ainsi que la fragilité sociale des femmes, la préoccupation majeure demeure les violences faites aux femmes en augmentation presque exponentielle. Et c'est justement ce que pointe le rapport moral du CEDIF.
Avec toutes les campagnes qui se sont mises en place depuis une bonne dizaine ou une douzaine d'années, il y a effectivement, à certains moments, ça fait tilt dans la tête des femmes. Je ne pense pas qu'il y ait plus de violence vis-à-vis des femmes maintenant qu'il n'y en avait dans les années 40 ou 30 ou 50, mais ça se dit plus. Et les femmes sont plus en capacité de décider de partir. À la première gifle, il faut partir. À la première insulte, il faut partir. C'est clair. C'est toute une spirale. Ça commence toujours petit et ça termine toujours par le drame. Mais de toute façon, le monde est devenu tellement violent dans toutes ses manifestations, dans toutes ses facettes, que les violences faites aux femmes deviennent d'une banalité... phénoménal, quoi.
Depuis que l'on peut l'enregistrer, cette violence, donc depuis les années 80, création des CEDIF, est-ce que vous avez constaté une évolution dans le type des violences et dans leur quantité ?
Dans les quantités, probablement, oui, puisqu'on a quand même des chiffres qui sont parlants. On a dans notre service d'aide aux victimes 31% des personnes qui sont des femmes victimes de violences, voire de viols. Hein, c'est, même entre époux, il peut y avoir viol. Donc des violences qui sont des fois extrêmes. Hein. Vous avez dans les statistiques nationales une femme qui meurt tous les 2 jours et demi. Alors qu'il y a 2 ans, c'était une femme tous les 3 jours. Et on est en train de passer tranquillement à une femme tous les 2 jours. C'est la violence, me semble-t-il, est de plus en plus extrême.
Et on l'a vu, c'est souvent la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, de la différence qui conduit à ces extrêmes. Alors, la conclusion est pour Nouria Yaïbodjio.
L'altérité, la différence, c'est quelque chose donc de riche pour une société. Autant un homme est riche pour une femme, autant une femme est riche pour un homme, autant, je veux dire, l'étranger, celui qui ne nous ressemble pas, peut être riche pour notre société.
Tous différents, tous égaux, disait un slogan des années 90. Si vous souhaitez contacter le CIDEF, CID2F des Vosges, vous pouvez le faire par téléphone au 03 29 35 19 01 du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h ou par courriel à contact@cid2f88.com. Une permanence mensuelle est aussi organisée à la Maison des Associations de Gérardmer et à la sous-préfecture de Saint-Dié. Enfin, pour en savoir plus, référez-vous à la page info locale de notre site internet www.cocktailfm.com. Merci de votre fidélité. Merci bien sûr à tous nos invités de ce matin et à samedi prochain pour un autre magazine. D'ici là, excellent week-end. À très bientôt.